Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio pour nous éclairer, pour nous faire du bien. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré au cannabis. On fera un peu d'histoire pour démarrer. Vous verrez que cette substance, que ce soit à des fins récréatives ou médicales, est utilisée depuis l'âge de pierre. Mais surtout, nous ferons un point sur ses mécanismes. Comment agit le cannabis dans notre cerveau? Quels dégâts peut-il engendrer à court et à long terme? Eh bien, pour nous éclairer justement, notre invitée, ce sera le docteur Nathalie Pat-Carsenti. Elle est neurologue et la co-auteure avec Caroline Balma-Chaminadour du livre Très sérieux du cannabis, paru aux éditions Jouvence. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, focus sur le molluscum contagiosum. J'ai bien dit, Jimmy, ou
c'est ça parfait,
va ouais,
pour une
okay. fois. Allez, savez-vous comment reconnaître cette maladie de peau et comment s'en débarrasser? Surtout, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed fera le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous dira s'il est possible véritablement de dénicher l'âme sœur sur les sites de rencontres.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Cathy.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors, il paraîtrait que le lait de vache n'est pas bon pour les adultes. J'ai même une voisine qui m'a dit que c'était pour les veaux. Donc, vous, qu'en pensez-vous? Moi, je sais que j'aime bien boire ma tasse de lait le matin. Merci pour votre réponse. Au revoir.
Alors, pour vous répondre, Cathy, on a interrogé une spécialiste du sujet. C'est le docteur Catherine Lacronière. Elle est médecin nutritionniste à Paris. On l'écoute.
Tout dépend qui on est. D'abord, il faut se rappeler que le lait de vache est une très bonne source de calcium. Est-ce qu'on a besoin de calcium, en particulier après la ménopause, quand on est une femme, pour sauvegarder ses os? Mais il y a également dans le lait un sucre de bonne taille qui s'appelle le lactose et qui doit être digéré au niveau de l'intestin par une enzyme qui s'appelle la lactase. Alors, on est avec cette lactase et puis, au fur et à mesure du temps, vers 18-20 ans, surtout si on a arrêté de boire du lait, eh bien on n'a pratiquement plus de lactase et donc ce lactose n'est plus digéré et peut provoquer des troubles digestifs, par exemple des ballonnements, voire même des troubles du transit. Il y a par contre des populations qui continuent à boire du lait, en particulier les populations scandinaves, qui vont garder leur lactase et qui n'auront aucun problème à consommer ce lait à l'âge adulte. Par contre, si vous faites partie de la population classique française, il est possible que vous ayez beaucoup de mal à en consommer. Il faudra donc trouver vos sources de calcium ailleurs.
Voilà, c'était le docteur Lacronière au micro de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, on va passer tout de suite à la seconde question d'auditeur du jour. Cette fois, elle est pour vous. Écoutez bien, c'est Jérémy. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. Vous parlez souvent des perturbateurs endocriniens. Mais c'est quoi en fait et où on les trouve? Pour quelles raisons faut les éviter? Et c'est à cause quoi comme problème autre que les problèmes de fertilité? Merci beaucoup.
Alors Jimmy, c'est vrai qu'on évoque souvent les effets néfastes des perturbateurs endocriniens dans cette émission. C'est un peu votre marotte, hein, je dirais, en ce moment. Mais peut-être, on va repréciser d'abord ce que c'est finalement que cette substance, ces substances.
Alors, les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques ou naturelles capables de perturber le système hormonal en bloquant l'effet d'une hormone, soit en simulant une hormone. Le problème, c'est que l'ensemble de notre organisme est régulé par ces hormones. Les testicules, les ovaires, le pancréas, la moindre dérégulation dans ce système a des conséquences dramatiques sur notre santé.
Alors, on les trouve où, ces perturbateurs endocriniens? Dans notre environnement, finalement, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Hein.
Exactement. On les respire, on les boit et même on les mange. Et un perturbateur endocrinien qu'on connaît assez facilement, c'est ceux contenus dans le plastique.
Et je vais vous donner, par exemple.
Exactement,
hein, c'est ça,
je vais vous donner un seul exemple. Par semaine, on mange l'équivalent d'une carte de crédit
non,
de
vous,
plastique.
Moi, non, hein. Si.
Non, mais si tout le monde, c'est une vraie étude sérieuse.
Même,
donc, on mange énormément de plastique.
Une carte bleue par
une
semaine.
Une carte bleue de plastique.
Wow.
On en trouve partout, dans les maquillages pour enfants, dans l'alimentation et même à la maison, dans la poussière. Et souvent, les perturbateurs endocriniens sont à l'origine de petits polluants qu'on a qui semblent naturels et inoffensifs et qui pourtant nous rendent malades.
Et ce matin, je crois, dans la matinale d'Europe 1, justement, justement vous alertiez sur les dangers des écrans de portables cassés, car justement, si on ne les fait pas réparer, ces portables, et c'est souvent le cas chez les ados, ils ont tous la façade complètement brisée, eh bien cette façade cassée de portable, elle peut dégager un perturbateur endocrinien.
Exactement, ça c'est peu connu. Un écran portable cassé va dégager un produit chimique qu'on appelle le cadmium. Et ce cadmium est reconnu comme un véritable perturbateur endocrinien. Or, on vous l'avait dit, on constate ça souvent chez les adolescents. Le problème, c'est que ces perturbateurs endocriniens sont particulièrement agressifs chez les enfants, chez les ados, les femmes enceintes et toute personne qui aura envie de procréer. Ça veut donc dire que chez un adolescent, il faut absolument réparer leur téléphone portable.
Bonne raison, ils vont être contents, on va leur changer le téléphone, ça va leur faire plaisir.
Ou simplement réparer l'écran et leur mettre une petite protection, mais on ne les laisse pas traîner parce qu'on a tendance à se dire « Bon, bah, ça t'apprendra, tu n'as pas fait attention. »
C'est pour ça que les parents les laissent un peu comme ça, c'est avec à faire attention,
mais
c'est dangereux.
Malheureusement, ça peut être toxique pour leur santé.
Donc on peut réparer simplement l'écran sans changer le téléphone. Donc pour notre quotidien, par contre, Jimmy, au-delà de l'écran portable, on a compris qu'il est, qu'il est plus prudent de réparer. Comment on les évite au maximum? Parce que bon, c'est un peu difficile, vous avez dit tout à l'heure, il y en a partout.
Alors, quelques gestes simples. Je vous ai dit qu'on en trouvait à la maison, notamment dans la poussière. Donc un geste que vous pouvez faire tous les jours, parce que la poussière devient un véhicule d'un perturbateur endocrinien, c'est d'aérer en permanence le matin et le soir en période de Covid. Ça peut aussi rendre des services. Bannir le plastique, notamment dans la cuisine. Et vous savez, à la maison, on a tous cette petite spatule dont le bout a un peu fondu.
Moi, j'ai tout jeté, j'écoute le docteur Jimmy Mohamed, j'ai tout en bois maintenant.
Et on les remplace en bois, parce que dites-vous, si elle a fondu au bout de la spatule, eh bien, c'est qu'elle est rentrée dans l'aliment que vous avez mangé. Il faut essayer de bannir les bouteilles d'eau en plastique, buvez de l'eau minérale. Et puis, c'est la période de Noël, plutôt que d'acheter des jouets.
L'eau du robinet alors, parce que l'eau minérale...
L'eau du robinet, pas d'eau en plastique. Et puis, c'est la période de Noël, les jouets plutôt en bois et surtout pas réutilisables. N'achetez pas des jouets en plastique d'occasion.
Vous y tenez, vous, ça, même avec vos enfants?
Je n'achète pas de jouets, comme ça, c'est réglé.
Les pauvres enfants, Mohamed. Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi, comme Jérémy qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout. N'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Nathalie Patkarsenti. Elle est neurologue et vient nous parler du cannabis sous toutes les coutures. Des petits rappels historiques, mais aussi du scientifique, bien sûr. Comment concrètement cette substance agit-elle dans notre organisme, dans notre cerveau? On va tout vous dire, alors restez bien sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir avec nous en studio notre invité du jour. C'est vous, docteur Nathalie Patkarsenti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue dans l'unité Parkinson de l'hôpital de la Fondation Rothschild et la co-auteur, autrice avec Caroline Balmach-Amidadour du livre Très sérieux du cannabis. C'est son titre. Il est paru aux éditions Jouvence. Alors c'est notre sujet du jour, le cannabis. Et on va démarrer par un peu d'histoire peut-être. Alors on a l'impression que le cannabis, c'est quelque chose finalement très utilisé depuis quelques dizaines d'années, mais en réalité ça remonte bien, bien, bien plus loin.
Ah oui, ça remonte très, 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 très loin, puisque on arrive à l'âge de pierre où on a découvert des graines en fait brûlées, des graines de cannabis brûlées. Et donc là, on est dans les années 10 000, 11 000 avant Jésus-Christ, donc on est quand même très loin, et probablement que c'était déjà pour utilisé pour des rituels. De spirituels, religieux. Donc ils en avaient déjà l'usage à ce moment-là.
Et en les faisant brûler dans les grottes, ils se sont rendus compte que ça donnait des petits effets.
Peut-être que ça leur faisait, ça leur faisait un peu du bien, oui.
Et des années plus tard, le cannabis a même fait des ravages dans l'armée napoléonienne durant la campagne d'Égypte aussi.
Oui, aussi, puisque effectivement la campagne napoléonienne, donc là on est plus dans les années 1798-1800, en arrivant en Égypte, les soldats découvrent le haschich. Et là, leur envie d'aller se battre, finalement, elle est beaucoup moins, beaucoup moins.
Ils sont moins motivés.
Ils sont beaucoup moins motivés, mais vraiment beaucoup moins. Et du coup, le général Bonaparte est obligé de faire passer une interdiction, en fait, une interdiction d'utilisation en urgence de l'utilisation du cannabis et du haschich. Et c'est finalement la première loi anti-drogue.
Ah ouais, vous avez vu, Bonaparte était un précurseur sur le sujet. Alors, il y a même, j'ai appris dans votre livre, donc la reine Victoria en Angleterre, à la fin du 19e siècle, on se rapproche encore un peu plus de nous, mais qui s'en est vue prescrire, là pour le coup, à visée thérapeutique. Expliquez-nous.
Exactement. Son médecin personnel, Sir Russell Reynolds, j'écorche un peu son nom, avait trouvé qu'avec de la teinture de cannabis, il arrivait à soulager la douleur de ses règles. Donc on a un premier usage finalement thérapeutique, même si avant...
Indication pas du tout validée aujourd'hui, on est d'accord.
On va en parler.
Ouais, on va laisser la partie historique à Mathieu Noël et Stéphane Bern, et désormais on va se concentrer à la partie médicale. Alors qu'est-ce que c'est que le cannabis tout d'abord?
Alors, le cannabis, c'est une plante, le chanvre, qui fait partie, si on donne son nom latin, de la famille des Cannabaceae. Donc, voilà, Cannabaceae. Alors, on a différents types de chanvre, hein, parce que quand on dit chanvre, on décrit une famille un peu en général. On a le chanvre agricole, qui est cultivé légalement, en toute légalité en France, et qui va être utilisé, et qui est utilisé depuis très longtemps, pour faire des cordages, pour faire des tissus, pour faire du papier, qui a un usage même dans la construction de bâtiments. C'est une plante qui est intéressante parce qu'elle consomme par exemple beaucoup moins d'eau que le coton. Donc même dans une optique de d'énergie durable,
voilà,
finalement on peut avoir, ouais. on a des propriétés qui sont très intéressantes.
Hein, ouais. Mais c'est pas le même que celui qui va être fumé dans des joints par des jeunes,
par exemple. Alors,
c'est pas
le même, oui et non. C'est-à-dire que, d'abord, c'est pas la même partie de la plante qui va être utilisée. Et ce qui définit l'utilisation légale ou pas, ça va être la teneur, en fait, en THC, donc la substance psychoactive hein, du cannabis, dont on va parler tout à l'heure. Et ce THC, il doit être inférieur à 0,2% pour que les produits puissent être diffusés.
Donc, dans les champs agricoles, ils risquent rien. Hein, c'est pas
non,
a priori, non. D'accord.
Non.
Et ce THC, cette substance dont vous parlez, donc qui donne finalement après la valeur entre guillemets récréative ou pas, cette substance, elle a quelle action précisément sur notre organisme ?
Alors, elle a une action multiple. Alors déjà, donc c'est cet effet psychotrope hein, qui est recherché par les utilisateurs de cannabis. Donc, elle va avoir un effet en agissant, on va le voir sur certains récepteurs au niveau du cerveau, elle va avoir un effet relaxant, elle va avoir un effet un peu désinhibant, elle va avoir un effet sur la modification des perceptions sensorielles, mais elle va avoir aussi un effet sur notre système qu'on appelle végétatif, neurovégétatif, donc celui qui contrôle beaucoup de choses, nos systèmes les plus profonds comme les battements cardiaques, la vasodilatation ou la vasoconstriction des vaisseaux. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir certains vaisseaux qui vont se dilater, comme par exemple les fumeurs, on peut voir une dilatation au niveau des yeux, les yeux rouges, donc c'est ce qu'on appelle l'hyperémie conjonctivale. Et puis, on peut avoir des zones qui vont se contracter et donc provoquer parfois des accidents vasculaires. Si ça peut être une cause effectivement d'accident vasculaire. On peut avoir la bouche sèche, on peut avoir après chez les petits consommateurs aussi des dérégulations du système de la faim, hein, de l'appétit, puisqu'on peut avoir très envie de manger quand on consomme un peu. Et puis par contre, les consommateurs...
Plus du tout faim, à l'inverse.
Plus du tout faim quand on consomme beaucoup.
Alors en France, l'utilisation de cannabis à titre récréatif, c'est interdit. Est-ce qu'on a des chiffres pour savoir si on est vraiment les champions? Parce qu'on entend souvent ça, qu'on consomme beaucoup.
Ah oui, on est... Alors c'est vraiment le...
Pourtant, on a la législation la plus stricte, peut-être,
c'est ça.
Hein, sur le
et
sujet.
Et c'est donc là le premier grand écart de notre pays, le premier grand paradoxe, c'est que c'est à la fois un produit interdit et qu'on est parmi, en Europe, les plus gros consommateurs. On a en fait, sur les chiffres de 2019, on a 18 millions d'expérimentateurs, dont 5 dans l'année. Donc voilà, donc quand même c'est énorme. Après, les chiffres donnent un peu le vertige parce qu'on a 1,5 million de consommateurs réguliers et on a 900 000, donc quasiment 1 million de consommateurs quotidiens.
Et à 17 ans, je crois qu'on a des chiffres, hein, le nombre de jeunes qui l'ont déjà expérimenté.
Là aussi,
c'est
parce
qu'on
le verra, l'effet sur le cerveau des adolescents est quand même relativement catastrophique. Et à 17 ans, il y a quasiment 39% des adolescents qui avouent avoir déjà fumé du cannabis.
Bon, ben des chiffres effectivement qui font un petit peu frémir. Docteur Pat Carcenti, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous cet après-midi, on vous dit tout sur le cannabis et notamment on va passer à ses mécanismes. Comment cette substance fait-elle planer? Quels sont les principaux risques pour notre santé? Et surtout, nous verrons ce qu'il se passe précisément dans le cerveau d'un jeune ado qui fume, avec un cerveau pas tout à fait bien construit encore, dans lequel les dégâts peuvent être particulièrement sérieux. On y revient dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Pardon, aujourd'hui, notre invité en studio, c'est vous, docteur Nathalie Pat Carcenti. Vous êtes neurologue dans l'unité Parkinson de l'hôpital de la Fondation Rothschild et vous êtes la co-auteure avec Caroline Balmach-Aminadour du livre Très sérieux du cannabis. C'est son titre, un livre donc qui est paru aux éditions Jouvence. Alors, on va parler à présent des mécanismes d'action du cannabis dans notre organisme. Le cannabis, c'est principalement dans notre cerveau, on en a un tout petit peu parlé déjà, mais il va avoir une réaction principalement dans cet organe, hein, c'est là le principal.
Oui, tout à fait, c'est l'effet planant effectivement du THC. En fait, on a découvert dans les années 90 les récepteurs au THC, donc les CB1, et les CB2. Les CB1 sont surtout au niveau du cerveau et dans des zones particulièrement stratégiques, hein, les zones de la mémoire, les zones du circuit de la récompense. Et donc, c'est dans ces endroits-là que les choses vont se jouer. Et puis, les CB2, c'est plus au niveau du système immunitaire. Donc là, on va moins en parler là, puisque l'effet planant va plus se situer au niveau du cerveau. Et donc, globalement, quand on va apporter cette molécule, qu'elle va, donc ce THC, quand il va se fixer sur ces récepteurs, donc les CB1, il va provoquer une cascade d'événements. Et cette cascade d'événements va surtout aboutir à une baisse de l'excitabilité des neurones, puisque les neurones, ils communiquent par de l'électricité et par de la chimie. C'est-à-dire qu'on va avoir un signal électrique qui arrive à un autre neurone, qui va libérer donc un neurotransmetteur et qui va poursuivre en fait sa connexion avec l'autre.
Quand il y a cannabis, ça se met en mode cool.
Voilà. Quand ça arrive finalement, quand le THC vient sur ces récepteurs, on va plutôt avoir une diminution de cette excitabilité. Donc, ils vont devenir beaucoup moins excitables. Et donc, par exemple, dans le circuit de la mémoire, ça va flotter un peu. Et donc, l'information va arriver beaucoup moins vite. Par contre, au niveau du système de la récompense, on pourrait se dire que ça va calmer le système de la récompense. Pas du tout, parce que ça arrive sur des neurones qui, normalement, inhibent la libération de la dopamine. Donc, moins par moins, ça fait plus. Et donc là, il va y avoir un afflux de dopamine. Et là,
c'est le plaisir ultime.
C'est un peu la même chose que lorsqu'on mange un morceau de carré de chocolat, cette libération de dopamine qui nous fait du bien. Mais tous les autres effets que vous avez décrits, finalement, ils sont néfastes. Ça contrebalance l'effet positif, si on peut le dire, entre guillemets, du cannabis.
De toute manière, à partir du moment où vous en parliez tout à l'heure avec les perturbateurs endocriniens, mais où on va apporter une molécule extérieure qui va venir agir sur un système de régulation interne, on va forcément en perturber l'équilibre.
Trop de plaisir. Hein.
Exactement. C'est-à-dire que là, comme il y a des décharges en fait, de dopamine, plus en fait, ce THC va arriver, moins les récepteurs vont être sensibles. Moins ils sont sensibles, plus il faut en apporter. Et plus on en apporte, et moins on a une réaction de plaisir.
Les parents disent parfois aux jeunes « Oh là là, arrête de fumer du cannabis, tu vas avoir les neurones qui vont griller. » Est-ce qu'on sait si clairement il y a une action du cannabis, du THC, sur les neurones directement ?
Alors, il y a une action qui n'est pas la même que l'alcool. L'alcool, elle grille clairement les neurones, elle grille les axones, elle grille les nerfs. Enfin ça, on a une toxicité vraiment directe. Le cannabis, c'est un peu plus insidieux. Puisque ça va agir, alors on l'a vu sur les systèmes de régulation, donc ça va être des déséquilibres de systèmes de régulation, et puis ça va agir surtout sur les connexions entre les neurones. C'est-à-dire qu'il y a une étude, par exemple, qui a été faite, où on a mis en culture des neurones, ça c'est une étude qui date de 2014, et quand on met du cannabis, enfin du THC, dans ces cultures de neurones, on voit que les neurones, ils se rétractent.
Oui, enfin, c'est pas terrible quand même.
Non, c'est pas terrible quand même, parce que qui dit qu'ils se rétractent, ça veut dire qu'ils communiquent moins entre eux.
Et concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un ado, par exemple, de 13 ans, s'il se met à fumer du cannabis ?
S'il se met à fumer du cannabis, alors déjà, il y a un effet immédiat qui est celui de la baisse de la motivation, qui est que ces neurones qui sont en pleine construction, parce que la période de l'adolescence, on pense que le cerveau, on le voit chez un enfant petit qui marche, tout est encore à faire. Et donc, toutes les connexions, elles se font de l'enfance, de la petite enfance, jusqu'à quasiment 20-25 ans.
Oui.
Donc, en fait, c'est à ce moment-là que le câblage se fait. C'est à ce moment-là qu'on gagne en rapidité de traitement de l'information.
On abîme le câblage si on fume trop tôt, en fait.
Exactement.
Je ne dis pas qu'il faut fumer après, mais en tout cas, avant 25 ans, c'est plus risqué.
Avant 25 ans, et toutes les études le prouvent, avant 15 ans, c'est une catastrophe, en fait, d'être confronté à ce produit-là, parce que le câblage ne se fait pas. Et donc, la construction des neurones, la construction de votre cerveau, va en pâtir.
Alors, ce n'est pas une compétition, mais quel est le plus toxique entre l'alcool et le cannabis, s'il fallait dire quel est le pire.
Les deux, mon capitaine. Sauf que, on peut être confronté à l'alcool le tôt, ça arrive. Mais c'est vrai que le cannabis est un vrai, à l'heure actuelle, fléau parce que les jeunes le consomment de plus en plus tôt, peut-être même plus tôt finalement que l'alcool. Mais bon, et puis malheureusement, parfois les deux sont associés.
Très bien, docteur Carcentier, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée au cannabis. On parlera notamment du cannabis thérapeutique avec d'ailleurs une expérimentation qui devrait bientôt démarrer en France. Dans quelle indication a-t-on déjà bon espoir que ce soit efficace ? On va vous détailler tout ça, à tout de suite.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est le docteur Nathalie Patkarsanti. Vous êtes neurologue dans l'unité Parkinson de l'hôpital de la Fondation Rothschild et la co-auteure avec Caroline Balmach-Aminadour du livre Très sérieux du cannabis. C'est son titre. Il est paru aux éditions Jouvence. Alors, on va s'intéresser, docteur, maintenant au cannabis thérapeutique. Ces dernières années, le message de défiance véhiculé envers l'industrie pharmaceutique pousse les malades à se tourner vers des solutions plus naturelles. Est-ce que ce phénomène, qu'on sent d'autant plus en ce moment en période de Covid, est-ce que ce phénomène fait que le cannabis thérapeutique intéresse aussi de plus en plus ?
Alors je crois que c'est effectivement un des éléments qui contribue à cette recherche de naturel. C'est vrai que les gens ont c'est un paradoxe encore.
Vous l'entendez énormément en consultation,
mais tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas simplement une fois par jour, c'est plusieurs fois par jour.
Ah oui.
Et c'est toute population confondue. C'est les jeunes, c'est les vieux, c'est vraiment tous les patients sont dans cette recherche.
Et vous dites, je suis pas très médicament.
Ah, c'est tout le temps. Ça, ouais. C'est je suis pas très médicament. Ça c'est la phrase qui commence. Et dans la suite, on a et qu'est-ce que vous pensez du cannabis thérapeutique ? Alors j'ai pas d'explication, il n'y a pas une explication uniciste, il y a cette recherche de naturel. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de reprendre la main? Ça, c'est possible, psychologiquement. Peut-être que les gens ont envie de reprendre la main et de ne pas subir les médicaments, les médecins, etc. Bon. Ils vont beaucoup sur Internet, donc ils ont une information, ils n'ont pas forcément le logiciel d'analyse de ces informations. Et c'est vrai que quand on... je me fais l'avocat du diable et je me mets à leur place. Quand on voit sur Internet des cas à propos d'un cas
magique,
les douleurs qui disparaissent, les gens qui sont soulagés, qui sont hyper bien, des patients parkinsoniens qui n'ont plus de tremblements... forcément que c'est un peu plus sexy que ce qu'on leur propose nous, avec les effets secondaires. Nous, on est obligés de leur expliquer tout, qui ne vont pas être forcément améliorés, qui vont avoir des effets secondaires, qu'il faut faire attention à ceci, attention à cela. Parce qu'on
du coup,
est quand
un
même
petit
dans
joint, la... ça paraît pas grand-chose.
Donc
quoi.
Du coup, ils se disent, pourquoi pas.
Mais on est peut-être un peu conservateur, non, en France, ou un peu, je peux pas dire hypocrite, parce qu'on est des prescripteurs de drogue, nous les docteurs, et quand on prescrit des antalgiques, de la morphine, des opioïdes, du tramadol, ils ont des effets secondaires qui sont parfois très mal tolérés. Et les patients se disent, mais finalement, est-ce que ce serait pire avec le cannabis ? Et je crois que d'ailleurs, une expérimentation qui s'est démarrée en France sur l'usage du cannabis thérapeutique, mais c'est-à-dire que ce n'est pas pour demain que les médecins pourront prescrire le cannabis thérapeutique.
Non, alors vous avez tout à fait raison. Oui, alors je ne suis pas sûre que ce soit uniquement conservateur, parce qu'on ne peut pas dire, simplement conservateur et pourquoi pas protecteur aussi. Parce que d'un autre côté, aux États-Unis, quand on voit tous les procès qu'il y a à l'heure actuelle, alors qu'à un moment, ça a été la grande vague de « il ne faut pas souffrir, il faut prendre en charge la douleur, on n'a pas le droit de souffrir », et puis on a mis les jeunes enfants, les jeunes adultes, les adultes sous codéine à des doses importantes, et puis on s'est retrouvé avec secondairement, effectivement, on en est revenu. Moi, la seule chose que je dis, je suis ni pro ni contre. Enfin, et d'ailleurs, ce livre n'est absolument pas...
Et vous m'avez dit en préparant cette émission, vous espérez bien que dans l'expérimentation, ça va montrer que ça marche dans plein de choses pour aider les gens.
Mais franchement, quel est le but d'un médecin si ce n'est de soulager ses patients et d'avoir le plus de molécules à sa disposition pour les soulager ? Mais pour ça, il faut avoir des certitudes et pas s'emballer sur quelque chose pour lesquels on n'a pas encore de certitudes. C'est vrai que dans certains pays, des études ont été faites de faisabilité, de tolérance. Si on parle du sativex, par exemple, dont on parle depuis... Enfin, moi, j'en ai le souvenir.
C'est un spray, je crois.
C'est un spray.
Parce que le cannabis thérapeutique, on est d'accord. Là, en plus, en France, on ne parle pas de joint à fumer. C'est pas
non,
ça.
Non, c'est pas ça. Mais là aussi, il faut préciser les choses sur le cannabis thérapeutique parce que c'est... dans la tête des gens, à l'heure actuelle, c'est le CBD qui est légal, donc le cannabinol, qui est le cannabis thérapeutique, et donc on doit l'autoriser. C'est pas ça le cannabis thérapeutique. Le cannabis thérapeutique, c'est un usage thérapeutique de deux molécules, le THC et le CBD. Et dans le Sativex, par exemple, qui est un produit qui a été développé et autorisé dans beaucoup de pays, dans la spasticité douloureuse, souvent des scléroses en plaques, c'est-à-dire c'est une maladie neurologique qui est parfois évolutive et invalidante et qui donne des raideurs musculaires qui peuvent être douloureuses. Cette molécule, c'est un phytocannabinoïde, c'est une molécule de THC et une molécule de CBD. C'est rarement que du CBD.
Et justement, ce CBD, il est déjà autorisé en France. Est-ce qu'il a des vertus thérapeutiques ?
En huile, on peut le trouver sous plusieurs formes.
Certains prétendent que c'est relaxant,
je connais des gens qui vapotent ça.
Là aussi, on prétend beaucoup de choses. Je pense qu'il faut rester vraiment sur le mode du conditionnel.
Sans aucune preuve, c'est ça que vous dites ?
Pour l'instant, on n'en a pas.
Scientifique.
Aucune preuve scientifique. La seule indication reconnue du CBD seul, voilà, quand on l'utilise vraiment CBD pur, c'est dans l'Épidiolex, qui est un médicament qui a un usage très particulier, puisque c'est dans les épilepsies, qui sont des épilepsies rares de l'enfant, et rares et graves de l'enfant, en association avec d'autres antiépileptiques. Ce sont des épilepsies qui s'appellent le syndrome de Dravet et de Lennox-Gastaut.
Donc en dehors de cette indication-là, il n'y a aucune preuve scientifique vraiment fiable ?
Non, on n'a pas, pas d'études, on n'a pas de
pour autant, est-ce que c'est risqué d'utiliser des huiles ou des crèmes à base de CBD, puisque du coup, on
se dit
partout, c'est
naturel. Il y en a partout, même dans les cosmétiques, on en voit partout, c'est très à la mode. De chanvre là partout, il y a du CBD.
C'est riche en oméga 3, en oméga 6, ça renforce la barrière lipidique de la peau.
Alors ça, riche en oméga 3, riche en oméga 6, oui, comme toutes les huiles végétales.
Après, et l'huile d'olive aussi, peut-être.
Tout à fait. C'est pas la même odeur. Je pense que c'est en termes de l'huile de lin aussi, l'huile d'argan. Enfin voilà. Donc ça, c'est riche en oméga. Là encore, j'ai du mal à vous répondre parce que j'ai bien fait la littérature.
Mais si on en sait peu sur l'efficacité, on en sait peu sur les risques. Alors,
exactement.
C'est ça le problème.
Je suis tout à fait d'accord sur votre pragmatisme que je partage.
Souvent, je suis comme ça.
Non, mais la seule chose qu'on sait sur le CBD, par exemple, au niveau de la peau, parce qu'on a fait des études pour la diffusion du médicament et donc de savoir si c'était mieux inhalé, avalé ou transcutané. En transcutané, ça passe 10 fois plus. D'accord. La barrière cutanée que le THC.
Pour convaincre vos patients des doutes qu'il y a encore là sur ces produits, notamment le CBD, vous avez une anecdote avec le parachute et le pull de mamie. C'est quoi cette anecdote?
Non, mais parce que j'ai toujours un peu. Enfin, voilà, moi je pose la question aux patients quand ils disent oui, est-ce que on peut aller acheter du CBD? Bon, déjà, je leur dis écoutez, vous avez deux parachutes en fait pour sauter. Vous en avez un qui est sorti de l'usine, avec effectivement sur les effets indésirables, on va dire, du parachute, c'est que peut-être une fois sur X 1000, il ne s'ouvre pas. Et puis à côté, donc vous avez le parachute fait maison, avec tricoté en partie par mamie et avec les feuilles ramassées par papy dans le jardin. Bah vous sautez avec lequel?
Jimmy, vous avez choisi.
C'est le choix est vite fait. Je ne saute pas du tout. C'est je reste à terre tranquillement. La vie est si belle à terre. Pourquoi prendre risque?
Donc voilà. Bon, l'expérimentation, elle n'a pas démarré, mais il faut vraiment attendre les résultats. C'est ça la conclusion.
Oui, alors vraiment, c'est une chance. Il faut voir vraiment cette expérimentation comme une chance. Elle a été décidée effectivement contre l'avis de certains conservateurs, parce qu'il ne faut pas nier qu'il y a quand même ce vent-là chez nous. Donc contre l'avis, l'Agence de sécurité nationale du médicament a décidé en juillet 2019 qu'on allait faire une expérimentation sur 4000 personnes, donc un chiffre quand même important, dans 5 indications particulières. Ça devait se mettre en place au mois de mai, avec la Covid, ça s'est repoussé.
Ouais,
là, c'est vraiment en place et tous les centres sont prêts à démarrer les essais au premier trimestre 2021.
Bon, ben on va suivre ça. Merci beaucoup, docteur Carcenti, d'être venu en studio avec nous pour cet éclairage sur le cannabis. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre coécrit avec Caroline Balma, Chamine Adour, le livre très sérieux du cannabis aux éditions Jouvence. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, focus sur le Molluscum contagiosum. Savez-vous comment reconnaître cette maladie de peau très contagieuse, comme son nom l'indique, et surtout comment s'en débarrasser? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. À tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors il est temps de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et pour amorcer cette chronique, on a cette question qui nous a été posée par Gustave. Il a appelé de Strasbourg, on l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Mon fils nous a ramené un petit cadeau de son cours de piscine, un petit molluscum. Je voudrais savoir si c'était grave ou pas. Et il a un peu réticent pour aller chez le dermato. Que faire?
Alors Jimmy, on va commencer par un petit rappel. D'abord, le Molluscum contagiosum. J'aime bien ce nom, je ne sais pas pourquoi.
C'est
pas très
sympa.
Joli, mais je le trouve rigolo.
Alors, la maladie
Molluscum
qui en découle, elle
contagiosum.
Est moins sympa. Mais la maladie, elle est moins sympa.
Ouais.
C'est une infection virale cutanée qui est causée du coup par un virus qu'on appelle le Molluscum contagiosum virus, qui appartient à la famille des poxvirus.
Oh,
et qui
c'est
donne
mignon ça aussi, pox.
Chez l'enfant, ouais, c'est sympa, mais ça donne quand même des petites éruptions pas très sympas et assez contagieuses.
Pox, c'est un rapport avec la varicelle?
Et la variole,
la variole, c'est ça.
C'est un sous-dérivé. Ah, quelle culture.
Alors même si son nom, bon, il fait flipper ou on le trouve rigolo, peu importe, en réalité, de toute façon, c'est jamais grave quand
non,
même.
Non, c'est une infection qui est bénigne, qui est très fréquente, notamment chez les enfants. Ça peut toucher jusqu'à 10% des enfants d'une classe d'âge, plus fréquemment entre 2 et 4 ans. ça régresse quasiment de façon spontanée, sans traitement, même si souvent les parents amènent les enfants vers le dermatologue pour s'en débarrasser.
Alors on n'a pas trop décrit à quoi ça ressemble, parce que c'est ça quand même le plus intéressant. Ça ressemble à quoi ces mollusques comme contagiosum? Et on les trouve sur quelle partie du corps?
C'est des petites pustules qui vont former un peu comme une surélévation au niveau de la peau. Ça va être nacré avec une couleur chair. Et puis vous allez avoir
des petites verrues, moi je trouve.
Comme des petites verrues, ouais, exactement. Ouais, ça va être un peu dur et ombiliqué, c'est-à-dire qu'au trou, au milieu, vous allez trouver un petit trou. On en trouve souvent sous les aisselles, derrière les genoux, sur le pli des bras, et on peut aussi en trouver sur le visage.
Et je ne crois jamais sur la paume des mains.
C'est rare, même si ce qu'il faut comprendre, c'est que les mains sont vectrices de la contamination, puisque c'est une infection virale contagieuse. Les enfants vont se tripoter sous les bras, sous les aisselles, peu importe, et ils vont en disséminer un peu partout. Et puis, s'ils sont généreux, ils vont filer aux petits copains.
Ils sont généreux. Alors, ce n'est pas grave, on l'a dit, mais ça peut être agaçant. Enfin, c'est pénible d'avoir tous ces petits boutons partout. Comment on s'en débarrasse si ça se traite, hein?
Alors, comme j'ai dit, c'est contagieux. Parfois, ils font des petits copains, des petites colonies. Il y en a plein qui vont.
Il y en a plein à côté les uns des autres.
Exactement,
ça
fait des petits groupes, des grappes de raisins. Alors, évidemment que c'est moins sympa que des vrais raisins. C'est contagieux. Donc, souvent, les parents finissent par amener l'enfant chez le dermatologue. Alors, plusieurs traitements sont possibles. On peut proposer d'attendre. Souvent, on a envie de s'en débarrasser.
Parce que ça peut partir tout seul, mais ça peut être long.
Il peut y avoir une autocontamination et disséminer à la fratrie. Et puis, dans ces cas-là, on propose deux choses. Soit un petit curetage, c'est-à-dire on va gratter pour débarrasser des lésions. Après une petite anesthésie locale. Soit de la cryothérapie pour tout simplement les brûler, comme dans les verrues classiques.
Ah, ça doit faire mal, tout ça. Et donc, le mieux, c'est quand même de prévenir tout ça. Jimmy, comment on évite d'attraper ce molluscum contagiosum? Il me semble qu'à la piscine, on attrape ça.
Ils aiment bien deux choses, l'humidité et la chaleur. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans deux endroits. Un, au niveau des piscines, donc ça veut dire qu'il faut ne pas prêter ses serviettes, faire attention aux vêtements, bien les laver. Marcher avec des claquettes, pourquoi pas. Et puis deuxième, humide et chaude, c'est les organes génitaux, donc c'est aussi une infection sexuellement transmissible. Bah oui. Le molluscum contagium de type 1, c'est l'enfant, et le type 2, c'est les adultes, et là, ça donne ces espèces de verrues génitales, donc c'est contagieux, il faudra aussi passer par la case dermatologue.
Pour éviter de partager, là aussi, ce super truc. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, vous le savez, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas et restez bien sûr avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15h. Alors, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle entre dans ce studio à l'instant. C'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question de Sylvain que je vais vous lire tout de suite. Je vais beaucoup sur les sites de rencontres et j'en fais quelques-unes de sympas, mais ne trouve pas la perle rare. Enfin, en tout cas, quelque chose qui pourrait être durable. Vous pensez que c'est parce que c'est un peu glauque, finalement, comme façon de démarrer une histoire d'amour? Peut-on vraiment rencontrer l'âme sœur quand ça démarre sur la toile? Alors Catherine, on va aller droit au but. Est-ce qu'il est possible d'avoir vraiment une très très belle histoire d'amour? J'imagine que oui. Enfin,
évidemment.
Ces dernières années, vous avez dû en voir beaucoup, non, comme ça?
Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul lieu de rencontre. Ce n'est que qu'est-ce qu'on fait des occasions de rencontre, qu'elles soient sur la toile, qu'elles soient dans la vraie vie, qu'elles soient dans le cadre du boulot, qu'elles soient dans le cadre des relations parfois compliquées, des relations amicales. Eh bien, de toute façon, c'est ce qu'on en fait qui fera que cette relation va prendre un peu plus de densité et qu'on va pouvoir y asseoir une confiance. L'erreur, en fait, ce qu'on pourrait dire, en tout cas de la problématique de la toile, c'est l'idée de faire des rencontres, comme on va au magasin et puis on dit... je vais essayer ce paquet de lessive et puis ce paquet de lessive et puis cet autre paquet de lessive, sans prendre le temps d'aller au-delà de la simple image, par exemple. Regardez comment sur les sites de rencontres, on fait défiler les visages en disant non, pas toi, pas toi, pas toi.
Je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est d'un côté ou l'autre, on élimine quoi. En fait,
c'est ça. Ouais. Et puis toi, je match. Alors, on match sur un trait. Et on ne match pas sur des gens qui, si on les avait rencontrés dans la vie, certainement, on serait tombé en pamoison. Donc, en réalité, on s'empêche de découvrir un peu plus profondément la possibilité d'un échange avec l'autre.
Bah quand même, si on vous écoute, on comprend que ce n'est pas forcément non plus un mode tout à fait sain, les sites de rencontre. Alors, je caricature un peu vos propos, évidemment, mais on a l'impression que c'est un peu le supermarché. On a tellement de choix qu'on ne sait plus qui choisir et qu'on devient très exigeant et qu'on se dit la prochaine fois, peut-être que j'aurai mieux. On est à la quête du mieux, alors que le hasard de la vie, parfois, nous fait rencontrer des gens sur le lieu de travail ou des amis ou au cours d'une soirée où finalement la magie va opérer, mais d'une façon beaucoup plus simple.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est exactement comme si vous étiez dans un système de jeu. Vous avez gagné 10 euros avec votre ticket. Au lieu d'être tout content de vos 10 euros, vous dites « Ah mince, j'ai gagné 10 euros, mais si je rejouais mes 10 euros, je pourrais gagner 20
cette fois. »
Exactement.
Ouais.
Et en fait, on n'est jamais dans le plaisir de ce qui se joue là parce qu'on est invité toujours à une... Il y a derrière, pendant que j'ai matché cette personne-là, il y a derrière une autre qui aurait été beaucoup mieux. Et donc, ça peut être extrêmement triste parce que c'est exactement la même chose. Est-ce que j'ai bien intérêt à me promener en tenant la main de mon partenaire dans la vie? Parce que si ça se trouve dans la rue, je pourrais en croiser un autre. Et donc, on peut faire ça à l'infini.
Mais là,
parce que ce qui fait la valeur, c'est la rencontre.
Ce qu'il dit, Sylvain, quand même, c'est qu'il va sur des sites de rencontres. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, j'en sais rien, un guide pratique de comment bien utiliser ces sites de rencontres? Déjà, peut-être n'en avoir qu'un seul, c'est peut-être mieux que de multiplier la fréquentation de plusieurs sites de rencontres, non?
Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il cherche la perle rare, donc
il va partout.
Il va tout dans toutes les bijouteries. Donc évidemment, il à force d'avoir l'idée qu'il cherche la rare, qui ne sera donc pas dans une bijouterie par définition, parce que si elle est si rare que ça, elle n'existe nulle part, vraiment quoi. Elle est dans un endroit caché et pas dans un endroit mis sur la toile. Donc à un moment donné, il faut aller progressivement, il faut rencontrer des gens pour de vrai et voir que c'est finalement pas ce que l'on cherche peut-être, mais en ayant donné à la relation un tant soit peu de chance.
Et peut-être que tout le monde n'est pas sur les sites de rencontres pour les mêmes raisons. Certains vont peut-être chercher le coup d'un soir et puis comme d'autres, comme Sylvain, vont chercher peut-être la perle rare. On n'est pas tous en adéquation avec la demande, on n'a peut-être pas tous envie de la même chose au même moment.
C'est ça. Je crois que vraiment, c'est plein de promesses. Certains vous vantent la liberté, d'autres vous vantent l'amour ou la cohérence des relations, mais ce sont que des arguments de vente d'un site. Rendons-nous à l'évidence qu'au milieu de tout ça, il y a juste des consommateurs ou il y a des énamourés qui cherchent désespérément l'âme sœur. Et d'ailleurs, est-ce que l'âme sœur existe? Non. Si c'est moi au féminin ou moi
au
masculin.
Quoi? L'âme sœur n'existe pas, mais qu'est-ce qu'elle vient de nous dire là,
parce que tout simplement, on se cherche soi d'une certaine manière. Et accepter de rencontrer l'autre, c'est accepter une part de frustration qui n'enlève en rien au charme de l'autre dans la réalité.
Jimmy, ça vous perturbe?
Non, c'est une bonne chose de pas. Parce que si on dit qu'il n'y a qu'une âme sœur, ça veut dire qu'on fait une rencontre une fois dans sa vie et que
si
on
ne
la rencontre
s'arrête,
pas,
ben c'est fini, il n'y a plus rien.
Si on
ne
la rencontre pas, c'est terminé à jamais. Alors que là,
et vous imaginez le bol, il faut qu'elle soit dans notre quartier. Sinon, si ça se trouve, elle est à l'autre bout du monde et vous êtes mal barré. Ouais. Donc heureusement, il y en a plein. Donc prenons le temps de rencontrer celles qui sont.
Oui, voilà. Moi j'ai trouvé la mienne, tout va bien.
Oui, moi aussi, c'est parfait. Merci beaucoup, Catherine. Pour ce message d'espoir, malgré tout. Merci.
Mais il n'y a que de l'espoir quand on ambitionne l'amour, de toute façon.
Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Catherine, à demain. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie. Là on va improviser aujourd'hui.
Alors on improvise, ouais, vas-y, ouais. Stéphane, t'es fort en impro toi.
Oui, parce qu'en fait aujourd'hui on va rendre hommage à tous les pros de l'impro. Par exemple Beethoven, il improvisait beaucoup des duels pianistiques. Ouais. Martin Luther King par exemple, I have a dream.
C'est un impro.
Non, c'est une impro.
Vous êtes sûr?
Il a poussé ses notes de côté et incroyable. Il a improvisé.
Et vous connaissez Serge le Mytho?
Oh bah oui,
l'acteur Jonathan Cohen, ouais. Il peut raconter des trucs de fou, comme par exemple comment il a réussi un jour à poser un avion, alors qu'évidemment il ne peut pas poser un avion. Pourquoi?
Parce qu'il ne sait pas piloter.
Mais surtout, on n'a pas accès au cockpit. Moi qui fais partie de la DGSE, j'ai les codes pour entrer dans un avion.
Non, c'est vrai.
Évidemment,
mais vous
je
êtes
peux
un
rentrer
gros
dans
mytho,
l'avion.
Là, c'est
oui, pas du tout,
mytho.
Pas du tout. J'ai fait une mission dernièrement
au
Panama.
C'est bon,
ça vous
c'est
entend,
bon merci.
D'accord,
non, bah, mytho ce type.
Merci beaucoup, messieurs. Un très chouette programme, comme tous les jours, avec Jimmy et Catherine. On restera bien sûr à l'écoute. Et vous aussi, je vous le conseille, restez sur Europe 1.